Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Un gouvernement en Allemagne pour le bien du pays. Angela Merkel félicite ainsi le SPD pour sa validation de la grande coalition. Nous sommes en direct de Berlin dans un instant. Bilag or not Bilag, première projection sortie des urnes. Les électeurs ont semble-t-il massivement refusé de supprimer la redevance de l'audiovisuel public. Nous ferons le point avec Cécile de Kervès-Doué. Les assauts protectionnistes de Donald Trump, Pékin ne restera pas les bras croisés. Correspondance d'Angélique Forget. On a chopé la puberté. Livre abondamment qualifié de sexiste sur les réseaux sociaux. Les éditions Milan renoncent à le réimprimer. Ilan Malka l'a lu pour nous. Les violences faites aux femmes sous la loupe des Oscars. Les Oscars, tribune des grandes causes, coup d'œil dans le rétroviseur de Tiphaine Cicéron. Et puis à la fin de cette édition, la face cachée du globe, Nabil Hamel nous emmène en Irak et en Inde. La chancelière allemande n'a pas tardé à faire part de son impatience à gouverner avec les sociaux-démocrates. Les adhérents du SPD ont en effet donné leur accord à la participation de leur parti à la nouvelle grande coalition, plus de 5 mois après les élections fédérales. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Cyril, résultat sans appel, c'est un oui à une confortable majorité.
Un oui franc et massif, hein. 66% des voix pour la grande coalition, près de 80% de participation. Les adhérents SPD, que l'on disait divisés et très réticents vis-à-vis de cette nouvelle alliance avec les conservateurs, ont donc fait le choix de la raison. 4 ans de plus au gouvernement, dans l'ombre d'Angela Merkel, plutôt que le grand saut dans l'inconnu. Une victoire du non aurait sans doute provoqué de nouvelles élections anticipées, replongé l'Allemagne dans la crise et peut-être provoqué un éclatement du parti. Ce oui est donc un grand soulagement pour la direction du SPD, d'abord, qui a dû batailler pour convaincre ses adhérents des avancées obtenues dans les négociations avec les conservateurs, avec notamment la promesse de plusieurs ministères clés, comme les finances et les affaires étrangères. Et puis, soulagement aussi pour Angela Merkel, son sort était lié à ce vote des militants du SPD. 5 mois après les législatives, l'horizon s'éclaircit enfin. La chancelière va pouvoir effectuer son 4e mandat. Elle sera formellement réélue le 14 mars lors d'un vote au Bundestag.
Merci à vous, Cyril Sauvageau, à Berlin. Il faudra attendre en revanche la mi-journée demain pour connaître les résultats définitifs des législatives en Italie. 46 millions d'électeurs, 3 pôles en lice et une loi électorale si complexe que la presse transalpine a baptisé la nuit à venir la nuit des algorithmes. En Suisse, une votation aurait pu profondément remanier le paysage médiatique. La question est la suivante, faut-il supprimer la redevance audiovisuelle qui irrigue 21 radios, 13 télévisions régionales où travaillent 13 500 salariés? Première projection sortie des urnes. Bonjour Cécile de Kervès-Doué.
Bonjour.
Que disent ces premières projections?
Que c'est un rejet massif, hein, avec des projections donc qui parfois dépassent les 70% de rejet de l'initiative à Genève, mais aussi en Suisse alémanique, à Zurich. Ici, donc, dans les locaux de la RTS, la télévision suisse romande, les salariés réunis à la cafétéria tout à l'heure ont accueilli ces résultats avec des bravos et beaucoup d'émotions. C'est une vraie victoire, m'a-t-on dit. On s'attendait à un rejet à 60%, mais ces 70% confortent le service public et c'est une bonne chose pour la Suisse. Ça montre que la solidarité est encore là chez nous, puisque le service public de l'audiovisuel, c'est le ciment de notre pays, me dit-on, on émet en 4 langues officielles partout et pour toutes les générations. Il n'y a donc pas eu d'effet Brexit, ni d'effet Trump, me répète-t-on encore. Les gens n'ont pas voté avec leur porte-monnaie, ils ont été gentils avec nous et il faudra donc le leur rendre et les remercier, concluait cette journaliste de la RTS.
Merci à vous, Cécile de Kervès-Doué. Pékin ne veut pas guerroyer avec Washington, mais de là ne pas se défendre. Donald Trump a bien dit qu'aucun pays n'échappera à ses taxes sur l'aluminium et l'acier. La Chine, premier producteur mondial, est là en position de force. Ce sont les enquêtes et droits anti-dumping que les États-Unis diligentent et augmentent qui agacent Pékin. Angélique Forget.
C'est un haut responsable chinois, le porte-parole de l'Assemblée nationale populaire, qui a haussé le ton. Si les États-Unis prennent des mesures qui nuisent aux intérêts chinois, la Chine, dit-il, ne restera pas les bras croisés. C'est la première fois que Pékin évoque aussi clairement de possibles mesures de représailles aux annonces de Donald Trump. Jusqu'à présent, la Chine cherchait à calmer le jeu pour ne pas entrer dans une guerre commerciale. Le président chinois Xi Jinping avait d'ailleurs dépêché à Washington en début de semaine son plus proche conseiller économique diplomatique pour tenter d'apaiser les tensions, en vain. Depuis la visite de Donald Trump en Chine début novembre, les relations entre les deux plus grandes économies de la planète se sont envenimées. L'administration américaine qui accuse Pékin de protectionnisme a notamment ouvert une enquête sur la politique chinoise en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologie. Malgré ces attaques et ces menaces, Pékin refusait jusqu'ici l'escalade des mots, car les échanges avec les États-Unis sont trop importants. La Chine affiche un excédent commercial de 300 milliards d'euros avec son partenaire américain et ne veut pas que cela change. D'autant que d'après Pékin, les taxes sur l'acier et l'aluminium chinois n'auront qu'un faible impact puisqu'ils ne représentent qu'une infime partie des importations américaines. Mais si les mesures protectionnistes venaient à s'élargir à d'autres produits, la Chine pourrait finir par riposter.
Correspondance d'Angélique Forget à Pékin. Les éditions Milan ne lanceront pas de réimpression d'un ouvrage destiné aux préadolescentes et intitulé « On a chopé la puberté ». Ce livre, publié en février, a fait l'objet de quantité de remarques sur les réseaux sociaux. Ses écrits sont jugés, entre autres, sexistes. Bonjour Ilan Malka.
Bonjour.
Ilan, vous avez lu ce livre, quel est son contenu ?
Alors, le but du livre est d'apprendre à gérer la puberté, comment réagir lorsque le corps change, affronter les différents désagréments physiques et psychologiques. Dans l'ensemble, la réponse des auteurs est la suivante, s'accepter tel que l'on est. Là où le livre suscite un débat agité, c'est notamment sur la façon dont il aborde cette question qui fait bien sûr écho à l'actualité. Comment réagir face au regard des autres en général et des garçons en particulier ? Il y a ainsi cette page où l'on voit une adolescente se promener dans la rue et être interpellée. « Mignon ces petits tétons », dit un garçon. Le livre conseille alors simplement de prendre un soutien-gorge avec un tissu plus épais. Il est également question de, je cite, « attirer l'attention du bel Ethan grâce à des seins en plein développement », fin de citation. Sur change.org, une pétition rassemble ce matin plus de 140 000 signatures pour demander le retrait du livre. La dessinatrice Emma évoque un livre qui, je cite, « apprend dès 9 ans à être un objet sexuel ». Le site mademoiselle.com est plus mesuré. Dans une critique complète, il décrit un ouvrage souvent maladroit, comportant des clichés, mais globalement animé de bonnes intentions et qui laisse une place à différentes façons de vivre les choses. Les éditions Milan ne réimprimeront donc pas l'ouvrage. Elles veulent, disent-elles, se questionner de nouveau sur la manière d'aborder ces problématiques adolescentes. Preuve qu'en 2018, ces thématiques ne peuvent plus être abordées comme avant.
Merci à vous, Ilan Malka. La nuit prochaine, 90e cérémonie des Oscars, une édition qui s'annonce marquée par l'affaire Weinstein et la lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis leur création en 1929, les Oscars ont souvent été utilisés comme une tribune pour défendre de grandes causes, jusqu'à devenir parfois moralisateurs. Tiffaine Cicéron.
Tout commence avec Marlon Brando, 1973. L'acteur doit recevoir un Oscar, il envoie à sa place sur scène une jeune femme. Elle porte le costume traditionnel des Indiens d'Amérique et refuse poliment la statuette qu'on lui tend.
Je représente Marlon Brando ce soir. Il m'a demandé de vous dire que, bien qu'il le regrette, il ne peut pas accepter cette récompense. Pour une raison, le traitement des Indiens d'Amérique aujourd'hui, dans l'industrie du cinéma et lors des événements récents de Wounded Knee.
Wounded Knee, la rébellion cette année-là des Indiens Sioux du Dakota du Sud. Après Marlon Brando, le micro des Oscars va servir d'autres grandes causes, la Palestine avec Vanessa Redgrave. La lutte contre le sida avec Suzanne Sarandon et Tim Robbins. Et même l'indépendance du Tibet avec Richard Gere. Jusqu'en 2003, où la cérémonie des Oscars arrive deux jours après l'invasion de l'Irak par les États-Unis, Michael Moore reçoit le prix du meilleur documentaire.
Nous aimons le réalisme et pourtant nous vivons des temps qui tiennent de la fiction, où les résultats électoraux tiennent de la fiction. Nous vivons des temps où un homme nous envoie à la guerre pour des raisons fictives. Nous sommes contre cette guerre, Monsieur Bush. Honte à vous, Monsieur Bush.
Dernière controverse en date, le discours de Sean Penn en 2009, qui milite pour la cause homosexuelle. Quelques mois avant, l'État de Californie s'était prononcé contre le mariage entre personnes du même sexe.
Je crois qu'il est temps pour ceux qui ont voté contre le mariage gay de s'asseoir, de réfléchir et de penser à la honte qu'ils vont éprouver à la honte de leurs petits-enfants s'ils continuent. Nous devons avoir tous les mêmes droits.
Ce soir, nul doute que le grand show tournera de nouveau à la tribune politique pour servir cette fois la cause des femmes.
Merci à vous, Tiffaine Cicéron. Il est presque 12h40, vous écoutez le journal de France Culture, c'est l'heure de la face cachée du globe qui nous emmène en Irak, en Inde, la face cachée du globe. Signée ce dimanche, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Mathieu. S'il a exprimé sa gratitude aux pays qui ont aidé Bagdad à lutter contre les djihadistes du groupe État islamique, le Parlement irakien demande maintenant au gouvernement d'établir un calendrier de retrait des forces étrangères stationnées dans le pays. Les États-Unis comptent encore quelques 5000 soldats en Irak. Les autorités brésiliennes ont infligé une amende de 5 millions d'euros au groupe norvégien Norsk Hydro, accusé de provoquer des dégâts environnementaux dans le nord du pays, avec son usine d'alumine, qui est la plus grande au monde. La société est également sommée de réduire de 50% sa production. Les armes vendues par des grandes puissances à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis servent-elles au Yémen ? L'ACAT, l'association chrétienne pour l'abolition de la torture, estime que la condamnation par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis de l'Iran pour violation de l'embargo sur les armes au Yémen ne doit pas exonérer la France de s'interroger sur ses propres responsabilités. Hélène Leget, responsable du programme Moyen-Orient-Maghreb, à la CAT.
On sait que depuis le début du conflit au Yémen, la France continue d'autoriser l'exportation de matériel militaire vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui mènent des frappes sur le Yémen. On le sait, mais on a très peu d'informations sur le matériel livré. On sait que a priori, cela concerne du matériel militaire qui pourrait être utilisé pour commettre des violations graves du droit international humanitaire au Yémen, mais on a très peu d'informations détaillées. Et donc, on a lancé une campagne d'interpellation des députés pour qu'ils créent une commission d'enquête parlementaire. La question qu'on se pose, en fait, c'est la question de la légalité. Le régime d'autorisation des exportations d'armes en France est strictement encadré par le droit français, par deux textes internationaux, le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne. Or, ces deux textes ont en commun d'interdire l'exportation de matériel militaire si ce matériel militaire pourrait être utilisé notamment pour commettre des violations graves du droit international humanitaire et autres crimes de guerre, comme c'est le cas au Yémen aujourd'hui.
Et vous le dites vous-même, il n'y a pas de preuve très précise de l'utilisation de ces armes dans le conflit au Yémen.
Alors on sait que des armes françaises sont utilisées dans le cadre du conflit yéménite. Certaines, si ce n'est peut-être la plupart de ces armes, ont été fournies avant le début du conflit. On n'a pas de preuve de l'utilisation d'armes française dans la commission de crimes de guerre. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Ceci dit, le traité sur le commerce des armes et la position commune de l'Union européenne interdisent l'exportation d'armes dès lors qu'il y a un risque, peu importe que dans les faits, ce risque se réalise ensuite ou non. Et c'est cette notion de risque qui est au cœur de notre questionnement.
En Inde, le gouvernement régional de New Delhi a décidé d'installer des caméras de surveillance dans toutes les écoles publiques. Officiellement, il s'agit de s'assurer de la bonne tenue des cours et de renforcer la sécurité des enfants, mais certains considèrent cette surveillance des enfants trop intrusive. Sébastien Farcy, correspondant de RFI à New Delhi, s'est rendu dans une de ces écoles.
Le directeur d'école, Pravin Takral, se tient debout dans son bureau devant un écran. Celui-ci retransmet en direct tout ce qui se passe dans une vingtaine de classes de cet établissement de Shabbat Dolakpur, situé dans un quartier populaire du nord-ouest de New Delhi. Ce collège de plus de 1200 élèves est l'un des premiers de la ville à posséder ce système de surveillance et cela semble avoir amélioré la discipline de ces adolescents, témoigne le principal.
Ces caméras ont installé un sentiment de peur chez les étudiants car ils savent maintenant qu'ils sont observés par les autorités et cela est important.
Le gouvernement régional a prévu d'équiper les quelques 1000 écoles publiques de la capitale dans les mois à venir, principalement pour renforcer la sécurité des enfants. À terme, une application mobile devrait même permettre aux parents de regarder ces images en direct. Le système est testé depuis plus de 2 ans, mais son déploiement est accéléré suite à 2 agressions sexuelles survenues ces derniers mois sur des enfants dans des écoles. À la sortie du collège, les parents jubilent.
C'est une très bonne idée. Si quelqu'un fait quelque chose d'immoral, nous aurons une preuve et cette personne pourra être attrapée. Les enfants se battent ou s'insultent parfois, cela va radicalement changer.
Mais certains spécialistes de l'enseignement sont opposés à ce projet. Krishna Kumar est l'ancien directeur du Conseil national pour l'éducation et la recherche.
Je pense que c'est mauvais, car ça signifie que nous abdiquons notre responsabilité d'améliorer nos écoles. Et cette tendance n'a plus de limite. La prochaine fois, on exigera des gardes de sécurité devant chaque classe. L'école est censée être un lieu libre, où l'on peut parler de ce que l'on veut. Et tout système de surveillance tue cette liberté.
Ce système de surveillance devrait coûter 12 millions d'euros au gouvernement régional, rien que pour cette année fiscale, soit environ 2% de son budget pour l'éducation.
À dimanche prochain.
À dimanche prochain, Nabil Hamel, la face cachée du globe à retrouver sur franceculture.fr. Les très grandes lignes de la météo de l'après-midi, temps gris sur la majeure partie du pays, du vent sur les façades maritimes, température maximale comprise entre 8 et 15 degrés.